Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.
Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un éditeur. Un éditeur très singulier, les éditions Kidam, avec Pascal Arnaud. Bonjour Pascal Arnaud.
Bonjour.
Alors, votre catalogue commence à être de plus en plus connu. Hein. Vous avez été reconnu par, si je puis dire, La Cause littéraire, hein, qui est un blog de critique littéraire. J'aime pas le mot critique, mais enfin bon, c'est comme ça. Qui vous a décerné le titre d'éditeur de l'année. Je passe la parole à Françoise, ma collègue.
Oui, bonjour.
Écoutez, bonjour.
Bonjour. Écoutez, moi, pour moi, vous êtes une maison d'édition effectivement extrêmement intéressante par beaucoup de côtés. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous a décidé un jour de vous lancer dans cette aventure.
Plusieurs choses, un faisceau de circonstances. À l'origine, je n'avais pas trop l'intention de monter mes éditions. Enfin, je lisais beaucoup de manuscrits, on me faisait lire beaucoup de manuscrits. Mais un jour, je cherchais à acheter un terrain sur une île, et puis ce terrain était en division, et une des personnes de l'indivision a refusé la vente. Et donc, moi, j'ai demandé à mon épouse si elle était d'accord pour que l'argent de ce terrain, je le mette dans une maison d'édition. Voilà, et ça a démarré en fait comme ça. Et la deuxième chose, c'est que pour me donner un coup de pied au cul symbolique, j'avais un dessin de Moebius avec moi depuis plusieurs années, parce que je l'avais rencontré sur une radio libre que j'avais créée avec des amis. Et ce dessin, je me suis dit qu'il ferait un superbe logo pour une maison d'édition. Et donc, s'il me donnait l'autorisation, ça me permettrait de passer le cap, de me lancer. Parce que la question de se lancer, moi je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'études particulières liées au monde de l'édition. Et donc, c'était à la fois un pari, me dire que est-ce que ma passion de la lecture allait passer la rampe publique. Et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Kidam, parce que j'étais personne en quelque sorte, et puis j'avais pas l'outrecuidance de mettre mon nom sur une maison d'édition. Voilà. Et donc Kidam éditeur me paraissait pouvoir se justifier par rapport à tout ce parcours. Voilà.
Oui, donc un Kidam qui se lançait dans le travail d'éditeur, dans le métier d'éditeur.
J'ai pas vu ça comme un métier, j'ai vu ça comme une passion.
Ah, voilà qui est important.
Et une passion, ça, ce qui voulait dire que d'emblée, j'allais faire des choses que j'avais envie de faire, de faire connaître, et surtout des choses qui soient inédites, puisque 98% du catalogue sont des choses inédites. C'est-à-dire que ce soit en littérature étrangère ou en littérature française, des gens qui n'avaient jamais été publiés auparavant.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de premiers romans, et puis quand ce ne sont pas des premiers romans, vous allez chercher des parts d'œuvres pas très connues de certains auteurs. Comment se font vos choix ? Vous allez chercher, c'est des auteurs qui viennent vous solliciter ? Comment ça se passe ?
Il y a différentes choses. Il y a effectivement toute une partie du catalogue où je suis allé chercher des gens, comme Jérôme Lafargue, par exemple. Il y a des livres en littérature étrangère que j'avais dans ma bibliothèque et donc qui n'étaient pas traduits. Et puis, il y a quelques textes qui me sont arrivés par la poste. C'est le cas de Romain Verger. Et puis après, il y a eu pour ce qui est de la littérature étrangère, des choses qui me sont arrivées par l'intermédiaire de traductrices ou de traducteurs. Ça a été le cas pour Jägel, par exemple, Reinhard Jägel, avec Martine Raymond, qui un jour m'a envoyé un document de 30 pages avec des extraits de Jägel. Et en deux jours, j'ai pris la décision de le publier. Et donc, il y a différentes manières d'arriver à trouver des gens. Bon, voilà. Kamenich, par exemple, c'est suite à une discussion avec Camille Lucher, la traductrice.
Oui, c'est traductrice.
Eleanor Fry. On travaillait sur En route vers Okhotsk. Et bon, voilà, elle m'a parlé de Kamenich, dont les droits d'un livre étaient terminés. Et donc, je me suis dit, tiens, mais oui, Kamenich, ça me parle. Et donc, voilà, on s'est engagé dans la republication et la publication de son œuvre intégrale.
Oui, alors...
Donc, voilà, il y a différentes manières d'aller chercher les auteurs. Parfois, bon, voilà, c'est... Parfois, c'est... Ça peut être un blog, ça peut être un texte qui paraît dans une revue. Et puis, parfois, bon, après, c'est fouiller, chercher, lire. Et puis, simplement, parfois aussi, c'est des recommandations entre auteurs. Voilà, il y a des auteurs qui se recommandent entre eux et qui disent peut-être que tu devrais proposer ça à Kidam. Voilà.
Oui, et puis vous citiez Arnaud Kamenich et Camille Lucher. Hein, c'est vrai qu'elle avait commencé, et puis c'était en déshérence, si je puis dire, dans l'édition française, parce qu'il y avait un éditeur de Lausanne qui avait commencé, puis tout s'était arrêté, et on attendait désespérément la suite des traductions. C'est très bien, ça a repris avec vous, c'est superbe. Françoise.
Oui, en fait, vous emmenez, par vos choix, par les choix que vous faites, vous emmenez le lecteur sur des chemins où il ne serait pas allé, hein, si vous n'existiez pas. Hein. Et c'est vraiment un voyage qu'on fait avec vous et avec les livres que vous faites. Et moi, je voulais vous poser une question sur l'objet livre. Hein, vos livres, ils ont leur marque de fabrique, hein, ils se ressemblent, mais ils sont tous, les couvertures sont toutes différentes et il y a une attention à la graphie. Hein, et aux couvertures, qui est assez extraordinaire et qui attire l'œil. Est-ce que vous travaillez toujours avec le même graphiste ou est-ce que vous changez au fil des livres ?
Alors, historiquement, au tout départ, c'est moi qui faisais les couvertures et c'était une catastrophe. Je vais citer par exemple la première édition du Son de ma voix de Ron Butlin. J'ai un ami éditeur qui m'a dit « Ce livre, il est vraiment formidable, mais il a la couverture la plus moche du monde. » Et je dois bien reconnaître qu'il avait raison. Après, j'ai travaillé avec des graphistes et je pense que il y a eu trois périodes. Il y a eu une période avec Forin, qui m'a fait ses couvertures avec un bandeau noir en bas. Et donc ça, je dirais que c'est vraiment les débuts de la maison d'édition. Puis après, il y a une seconde période avec Marion Bataille, où effectivement, il y avait une recherche graphique très, très pointue à partir d'un fond blanc. Et puis la dernière période, voilà, depuis 2014... Je travaille avec Hugues Volant, donc Hugues a cette particularité, c'est qu'il lit les textes et donc voilà, il me fait des propositions ou parfois il impose des propositions aussi. Donc c'est un travail à part entière qui lui revient. Et donc il a essayé de trouver quelque chose qui soit à la fois commun à toutes les couvertures et en même temps à les distinguant les unes des autres. Voilà. Donc, cet aspect-là, c'est à lui que je le dois. Et d'une manière générale, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de petits éditeurs indépendants qui font un travail similaire et qui sont très attentifs à faire en sorte que les livres soient agréables, beaux, au-delà de la singularité des textes proposés.
Alors, en même temps, effectivement, nous, on a, avec Françoise, on a aussitôt quelques éditeurs qui nous viennent à l'esprit. Mais il me semble que vous faites quelque chose en plus, parfois, dans certains des livres, où il y a des, je dirais, des audaces typographiques. Alors, j'ai par exemple, là, entre les mains, le charognard de Stéphane Van der Hagg. Et c'est, je dirais, il y a une audace d'édition, enfin, en tout cas, avec un texte qui s'efface à la fin, qui devient de moins en moins lisible, hein, comme s'il y avait un gros défaut d'impression, et on termine avec des pages toutes noires. C'est des idées d'éditeurs, c'est des idées d'auteurs, comment ça vient, ces innovations ou ces expérimentations typographiques?
Alors, moi, je me méfie vraiment du mot expérimentation, parce que je dirais que le catalogue, il se distingue en ce sens qu'il y a un travail qui est fait entre le fond et la forme. Mm-hmm. Pour moi, la forme est très importante, c'est-à-dire que je pense que le roman permet beaucoup de choses. Mais on n'est plus au 19e siècle, donc il ne s'agit pas seulement de raconter... Une petite histoire. Il m'arrive de publier des livres qui sont comme ça, c'est-à-dire construits sur le simple déroulé d'une histoire, et après, effectivement, le distinguo va se faire sur l'efficacité d'un style ou l'efficacité d'une intrigue. Mais globalement, je pense que les trois quarts du catalogue est constitué de livres qui mettent en jeu quelque chose avec la forme. Ben, c'est le cas, par exemple, chez Reinhard Tiergel, c'est le cas chez B.S. Johnson, c'était le cas aussi, même d'une façon un peu plus classique, avec Ron Butlin ou Kate Breverman. Et bon, dans le cas de Charognard, il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire c'est Stéphane Van der Hagg qui m'a proposé ce texte-là, avec cette idée-là. Et... allô ?
Oui, nous sommes là.
Cette idée-là, elle était en relation même avec ce que le texte c'est-à-dire cette espèce de déliquescence d'un homme qui est pris à la fois par sa folie et peut-être par un environnement qu'il estime hostile. Mais est-ce que l'hostilité qu'il ressent n'est-elle pas à l'intérieur de lui-même, quoi ? Donc, il y avait ce côté, de rendre un journal qui s'efface à travers la tête de son protagoniste.
Oh, et puis c'est même la langue qui se délite, ça fait partie du fond du récit, si je puis dire. Alors, j'ai fait le compte un peu sur votre site, hein, vous avez publié quoi, à peu près une bonne centaine d'auteurs, on va dire plutôt d'auteurs que de livres. Hein, ça représente quelques 120 livres, mais vous affirmez vous-même, vous publiez plutôt des auteurs que des livres. Mais dans ces auteurs, il y a les traducteurs. C'est-à-dire, vous mettez, en tout cas sur le site internet, traducteurs et auteurs à même niveau.
Oui, ça m'apparaît normal. Parce que les traducteurs, quand ils font un travail qui est de qualité, pour moi, ce sont des auteurs. C'est-à-dire qu'ils ont, cette capacité, pour certains, non seulement à découvrir des choses que personne ne serait allé voir, et puis l'autre surtout capacité, c'est de réussir à transposer dans une autre langue la quintessence même d'une autre, qu'elle soit allemande, qu'elle soit grecque, qu'elle soit anglaise. Donc, effectivement, je ne peux pas faire autrement que les considérer comme des auteurs à part entière. Si je regarde le travail phénoménal qu'a fait Martine Raymond sur Reinhard Tiergel, il est tout à fait comparable à celui de Claude Riehl avec Arnaud Schmidt chez Tristram. C'est quelqu'un qui va mettre peut-être 2 ans ou 2 ans et demi pour rendre une traduction d'un livre de 400 ou 500 pages. Oui, donc, c'est le même type de travail qu'un auteur.
Oui. Donc, Martine Raymond.
Il est logique de les considérer comme des auteurs.
Voilà, donc Martine Raymond, un pour nos auditeurs, qui traduit de l'allemand. Et puis bon, moi je vois qu'il y a quelqu'un comme Michel Volkovitch aussi, qui a un peu un exemple pour nombre de traducteurs, hein, dans sa rigueur richesse de son travail,
qui Michel traduit Volkovitch du grec. C'est singulier parce que c'est un voisin, il habite à côté de Meudon, à Sèvres, et moi j'avais lu La femme du métro en anglais, et c'est un texte que j'avais en tête comme ça, puis un jour je suis tombé sur son blog par hasard, et parce que je cherchais des choses sur la Grèce, et j'ai lu qu'il rêvait de traduire ce texte qui en grec s'appelle Madame Koula. Et donc, je lui ai dit, moi j'ai lu qu'en anglais, mais si vous êtes partant pour le traduire du grec, on le fait. Et c'est comme ça qu'on a démarré une collaboration qui a fait que il a traduit d'autres livres de Komandareas et Sotiropoulos ou Christophe Economou.
Voilà, Christos Economou, qui est pour moi, chez vous, était une révélation, qui est un jeune auteur grec que je recommande chaleureusement. Puis il y a eu Mialis Ganas aussi. Enfin, voilà, c'est vrai que vous êtes devenu un des éditeurs de littérature grecque dans le paysage français, de l'édition française. Oui, alors, donc on parle de la Grèce, on a entendu allemand. Vous avez une vocation clairement européenne, alors.
Il y a une collection qui... beaucoup de textes sont réunis sous une collection qui s'appelle Made in Europe. Mm-hmm. Donc, effectivement, voilà. Je pense que c'était lié à la volonté de ma part d'avoir 50% du catalogue en littérature contemporaine française et 50% du catalogue en littérature contemporaine étrangère. Donc avec d'autres langues. Voilà, il y a Vedrana Rudan avec Rage, traduit du serbo-croate.
Oui, j'ai vu.
J'essaye de développer petit à petit, quoi.
Il y a même une traduction du SAM, donc la langue des Lapons. Hein,
ça, c'est pas.
Non.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est Cénoman. C'est un livre parce que mon ami Alain Mala, qui dirigeait les éditions Cénoman, a dû mettre la clé sous la porte. Et il avait publié ce livre magnifique sur la poésie SAM, Migrante et ma demeure. Et voilà, le livre, il est tellement beau. Ça allait partir au pilon. Et je lui ai dit, non, il faut sauver ça. Et donc, j'ai récupéré les exemplaires du stock et je le vends en direct pour les amateurs de poésie SAM.
D'accord.
Je ne pouvais pas m'imaginer que ce livre allait aller à la poubelle. Donc voilà, comme le reste du stock disparaissait, j'ai souhaité garder en accord avec lui cette fin de stock. Quoi. Il en reste 220.
Bon, mais ça va partir. On va en parler, vous allez voir.
Non, mais je m'occupe.
Voilà, et justement, moi, je voulais vous demander, je sais que le métier, entre guillemets, hein, même si pour vous, c'est une passion d'éditeur, est difficile, et je voulais savoir si, financièrement, c'est quelque chose qui ne pose pas trop de problèmes.
Ah ben, alors, de ce point de vue-là, la maison a été montée avec rien. Hein. Au départ, 8 000 euros, puis après, j'ai remis 12 000 euros, et puis après, j'ai fait quelques emprunts à la banque. Et puis, entre 2012 et 2014, j'étais vraiment dans une situation littéralement catastrophique, très endetté, et donc j'étais obligé de me désengager de mon distributeur à l'époque, qui était la Sodis. En fait, c'était une marche un peu trop haute pour moi. Et bon, voilà, c'était un mauvais choix qui m'a mis dans une situation vraiment dramatique et d'endettement. Et donc, j'ai passé 3-4 ans à rembourser une grande partie de mes dettes en étant aidé notamment par nombre de traducteurs ou traductrices ou d'auteurs qui m'ont soutenu et une trentaine de libraires. Et depuis que je suis avec Harmonia Mundi, depuis septembre 2014, où je n'ai publié qu'un titre, et voilà, j'ai grandi tout doucement avec eux. Je pense que c'est le distributeur et diffuseur qui me correspond tout à fait. Et disons que je suis rentré dans une période plus stable d'un point de vue économique, notamment parce que j'ai eu aussi la chance d'avoir deux livres qui ont vraiment très fortement marché. Ça ne m'était pas trop arrivé auparavant, si ce n'est que les plus hautes ventes que j'avais pu faire auparavant, c'était 5000 exemplaires, ici ou là, sur quelques titres. Mais le livre que je ne voulais pas écrire d'Erwan Lareur...
Voilà, je me doutais que c'était Erwan Lareur qui avait boosté vos ventes.
Takawan de Plamondon,
Et Takawan, d'accord.
J'ai trouvé plus de stabilité. Mais ça reste tout le temps, comme je dis, un livre très bien formé, c'est aussi parfois l'arbre qui cache la forêt décimée. Donc c'est toujours quelque chose qui est délicat d'être indépendant, parce que économiquement parlant, il faut toujours que ça soit rentable pour pouvoir perdurer et non bien pas juste se contenter d'être à l'équilibre, parce que l'équilibre c'est trop précaire. Voilà. Donc moi c'est une période qui est un peu plus faste, mais qui demande à être renforcé et toujours surveillé, quoi.
Bien. Alors, nous allons terminer cet entretien en revenant peut-être, je n'allais pas dire au livre, puisque vous êtes attaché à l'idée d'auteur, aux auteurs, avec les prochains auteurs qui vont être publiés, qui sont tout prêts et qui sont presque dans les librairies ou qui vont y arriver dans très peu de temps. Alors, on a parlé d'Arnaud Kamenich.
Arnaud Kamenich, oui, il sort le 20 février, donc il y a une réédition de Derrière la gare et un inédit, Ostrinkata.
Ouais.
Moi, Kamenich, je suis très très heureux de le faire, parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il y a une puissance de la poésie, un humour et une sensibilité sidérant, et en même temps il y a cette espèce de côté un petit peu anarchiste, frondeur, tout en traitant d'une façon apparemment légère de thèmes qui sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus humains dans ce qu'est une collectivité, que ce soit Derrière la gare dans les années 50-60 ou que ce soit la disparition d'un bistrot 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Et voilà, c'est une Helvétie qui est un petit peu hors norme, tant par ses personnages que par cette façon de travailler l'oralité et de la rendre par l'écrit.
Voilà, un écrivain moi, dont je recommande fortement la lecture, qu'on avait pu découvrir grâce aux éditions d'En Bas il y a quelques années, et puis qui, je crois, ça marche très bien pour lui en Suisse, je crois, sur son dernier titre, Der letzte Schnee, donc La dernière neige, est dans les meilleures ventes en Suisse depuis quelques mois déjà.
Alors, c'est ça qui est
ce qui est très étonnant d'ailleurs.
C'est-à-dire que, là vous parlez de la Suisse allemande.
Oui, tout à fait.
Le livre marche très très bien en Allemagne comme en Suisse allemande, mais je pense que c'est plus difficile. Je vais devoir faire un travail de fond pour pouvoir l'installer en France et amener les gens à découvrir que ces livres sont des petits joyaux avec lesquels on a de quoi faire, et d'une part on peut s'amuser avec et en même temps c'est un auteur qui joue vraiment de tas de registres de langue, qui est subtil et qui est aussi très observateur, et puis il y a un côté à la fois, je dirais, Arnaud Schmitt, et un côté aussi beckettien.
Moi il me fait beaucoup penser à Beckett par ses personnages.
Voilà.
Bien, ben voilà, un des auteurs de votre catalogue à découvrir, je dirais, impérativement, ce sera dans les librairies dans très peu de temps. Bon, nous arrivons à la fin de notre émission, donc on ne va pas pouvoir échanger plus longtemps. On va signaler quand même un nouveau texte d'un auteur français qui est allé au Canada, Pierre Terzian. Donc ça va paraître au mois de...
Le 5 mars.
Ça paraît le 5 mois de mars, voilà.
Pierre Terzian, il est français, mais il vit au Canada. Il est marié avec une Québécoise et il a écrit un livre qui est absolument hilarant et qui raconte 200 journées de travail en une dans les garderies montréalaises, dans les quartiers les plus pauvres, aux quartiers les plus chics.
Voilà, il y a quelque chose de Ward Button, mais en beaucoup plus drôle, si je puis dire, si c'est possible. Bien, ben merci beaucoup Pascal Arnaud.
Merci à vous.
De nous avoir accordé ce temps. On aurait voulu en avoir plus, mais c'est la fin de l'émission. Mais je vous rassure, nous continuerons à parler de vous, même quand vous n'y serez pas, à travers les auteurs que vous publiez.
Ok, parlez des livres, pas de moi.
Oui, non, mais à travers la maison d'édition et les auteurs publiés, bien entendu.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Voilà, c'était donc un entretien que nous a accordé Pascal Arnaud, les éditions Kidam. Alors, juste vous rappeler quelques-uns des titres que nous avons pu évoquer. Alors, nous avons parlé avec Pascal Arnaud de Erwan Larreur. Son livre qui a eu beaucoup de succès, qui était Le livre que je ne voulais pas écrire, qui est sur le... parce qu'il a été victime de l'attentat au Bataclan, et donc c'est autour de cela. Alors il avait publié avant, Françoise, il avait publié Marguerite n'aime pas ses fesses.
Marguerite n'aime pas ses fesses, oui.
Et puis il y en a eu un autre depuis.
Et puis à l'automne est sorti Pourquoi les hommes fuient.
Dont tu nous avais parlé à ce micro.
Oui, qui est un très beau livre.
Voilà. Alors, il l'a évoqué aussi dans les livres qui ont un peu boosté la maison d'édition, Éric Plamondon, un auteur canadien québécois qui s'est installé à Bordeaux, puis qui navigue entre les deux mondes. C'était pour son roman Takawan. Takawan, c'est les alevins, les jeunes saumons. Enfin, pas les alevins, c'est les jeunes saumons. Il se passe quelque chose. C'est des événements qui ont lieu au Québec il y a quelques années où il y a eu des problèmes entre les Indiens à cause de la pêche du saumon. Et puis là, Éric Plamondon a aussi publié depuis Oyana, qui se passe au Pays Basque. Voilà. Et puis on a évoqué aussi Stéphane Van der Hag. Avec ce livre très bizarre, Charognard, dont je recommande hautement la lecture aussi. Et puis, il y en a eu un autre depuis qui s'appelle « À tous les airs ». On peut évoquer aussi la littérature grecque. La littérature grecque chez Kidam, c'est pas rien. J'évoquais tout à l'heure au micro Mihalis Ganas, grand poète grec. Là, on a un volume de nouvelles qui s'appelle « Quelques femmes ». Et puis, surtout, un auteur... énorme, si je puis dire, Christos Oikonomou, grand auteur grec, avec deux volumes, « Ça va aller, tu vas voir » et « Le salut viendra de la mer ». D'après ce que je sais, un troisième volume devrait bientôt arriver. Et puis, on vous en reparlera de Kidam, Arnaud Kamenich, Derrière la gare, Oustrinkata, et apparaître bientôt le titre de Pierre Terzian, un auteur français qui est allé au Canada. Ça fait longtemps qu'on ne s'est jamais connu. Il faudrait peut-être le dire avec l'accent québécois. Je ne sais pas faire. Allez, on se retrouvera pour d'autres lectures très bientôt. Merci Françoise.
Merci Marc.
Merci Rongemaille à la technique. Et à très bientôt. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.